Bien, bonsoir à tous. Donc je reprends la place de Samuel, mais j'ai gardé quand même ces titres. Alors je ne sais pas au niveau du contenu, étant donné qu'il ne l'avait pas fait, mais j'ai gardé les trois titres, les trois cours qui étaient annoncés. Et sans forcément faire de la pub pour la semaine prochaine, mais c'est vrai que les trois cours sont quand même liés, étant donné qu'ils suivent au niveau chronologique. Donc c'est vrai que c'est quand même intéressant, je pense, si vous pouvez, de venir aux trois conférences. La séance aujourd'hui, alors, va couvrir quand même s'étale quand même sur une grande longueur de date, étant donné qu'on commence donc de la domination Tudor, à peu près au XVIe siècle, donc 1535 en gros pour situer, et on terminera aujourd'hui donc par la grande famine en 1848 jusqu'à 1851. Donc voilà, j'ai été obligée forcément de couper certaines choses, on ne peut pas parler de tout. Donc le cours numéro 2 la semaine prochaine reprendra donc à la fin de la grande famine, donc pour un peu étudier les impacts, on va peut-être en parler un petit peu aujourd'hui, et puis se terminera, donc va surtout traiter du XXe siècle pour parler de la guerre anglo-irlandaise et surtout des conflits, voilà, entre l'Irlande et l'Angleterre, et le troisième cours traitera de la Seconde Guerre mondiale, on va partir de là jusqu'à nos jours à peu près. Donc j'ai décidé en fait aujourd'hui, par rapport à l'histoire, de vous parler, étant donné qu'on est sur les liaisons sous haute tension, donc la relation entre l'Irlande et la Grande-Bretagne. Donc on va axer, le modèle sera la Grande-Bretagne, on va essayer d'annexer, sans mauvais jeu de mots, l'Irlande à l'évolution en fait de la Grande-Bretagne de 1500 et quelques jusqu'à 1850. Ensuite, le cours numéro 2 sera plutôt centré sur le conflit ou les conflits avec les attaques terroristes, notamment entre l'Irlande et la Grande-Bretagne. Et du coup, au cours numéro 3, je trouvais intéressant peut-être de revenir plus sur l'Irlande en post 1990, voire début des années 2000, notamment je pensais aux tigres celtiques, etc. Vous avez dû entendre des choses là-dessus. Donc le troisième cours sera plutôt axé Irlande, un petit peu sur les dernières parties, plutôt que ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors, essayer de vous montrer un petit peu plusieurs facettes. Bien, tout d'abord, je me présente rapidement. Donc, j'ai fait des recherches sur les prisons à Dublin et aussi une étude comparative entre les prisons dublinoises et les prisons londoniennes. Donc ça, c'était mon master 2. Et en ce moment, donc, je travaille sur une thèse qui étudie en fait les relations entre Londres, Dublin, Édimbourg de 1845 à 1945 à travers l'espionnage, donc tout ce qui est surveillance des pays voisins, contre-surveillance aussi forcément, puisque qui dit espionnage dit aussi contre-espionnage, désinformation, etc. jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Donc vous allez sentir forcément dans ma présentation des petites touches, non pas d'espion, parce que je ne suis pas espionne, mais voilà, ça me semble aussi intéressant de voir d'où il est né en fait cet espionnage. Vous savez tous que l'Angleterre est quand même bien liée, on sait que les Anglais sont fans d'espionnage, et ça remonte très très loin. Donc parfois vous verrez des petites touches sur Henri VIII par exemple, sur comment il gérait ses espions, et je trouve que ça s'inscrit bien quelque part dans la relation aussi avec Londres, puisque l'Angleterre est quand même spécialiste pour espionner et manipuler en douce tous ses voisins, notamment l'Irlande et l'Écosse. Bien, donc le titre, Liaison dangereuse, convient parfaitement en fait aux relations anglo-irlandaises, comme vous l'avez pu le comprendre, car au début en fait, l'annexion de l'Irlande par l'Angleterre est purement religieuse et politique, et permet à Henri VIII quelque part d'affirmer sa puissance. Puis l'île d'Erin devient un marché économique et industriel, où de la main-d'œuvre bon marché est à portée de main en fait. Mais en même temps, l'Irlande représente aussi le talent d'Achille des îles britanniques. Le danger est géopolitique et militaire pendant la Seconde Guerre mondiale, en raison notamment des faibles moyens du pays en matière de défense en cas d'attaque ou d'invasion. Pour gérer ce danger, Londres a recours, comme je vous le disais, à l'espionnage. Mais elle est partagée entre un espionnage clandestin, à l'insu de Dublin, et une coopération avec cette dernière qui serait en fait bien plus efficace. Toute l'ambiguïté se situe donc dans les relations entre l'Irlande et la Grande-Bretagne, dans le choix du rapprochement ou de l'éloignement des deux capitales. De son côté, Dublin essaye aussi de se développer et pour cela prend modèle sur la métropole londonienne au niveau institutionnel. Mais en même temps, et c'est là que c'est compliqué, elle cherche à s'en détacher et à devenir indépendante, et pour cela, met sur pied de vastes attaques terroristes. Cette première séance couvre une très vaste période, puisqu'elle s'étend de la conquête de l'Irlande par la dynastie Tudor, à la fin du XVe siècle, jusqu'à la Grande Famine en 1851. Le but sera donc de parcourir les débuts des relations entre l'île verte et l'Angleterre, en étudiant les raisons pour lesquelles Londres intervient en Irlande, et l'évolution des deux capitales en parallèle avec la création du Royaume-Uni, de Grande-Bretagne et d'Irlande en 1801. Donc là, je vous ai mis un petit peu rapidement le plan de séance d'aujourd'hui. Enfin, cette première séance insiste sur le fait que, dès le début du rapprochement de Dublin et de Londres, des tensions et des problèmes surgissent et perdurent toujours actuellement. Donc je voudrais premièrement revenir sur la dynastie des Tudors. Alors, je vous ai rapidement rappelé les rois, les dates pour vous situer un petit peu. La dynastie des Tudors, en fait, c'est l'une des plus glorieuses périodes de l'histoire britannique. Donc, vous avez des rois qui sont très puissants, notamment Henri VIII, et qui vont chercher à annexer les voisins. Donc, on va passer directement à Henri VIII. Donc, son père, c'était Henri VII, comme vous pouvez voir au niveau des dates. Il est moins célèbre... Je voulais parler d'abord d'Henri VII rapidement. Il est moins célèbre justement dans cette dynastie qu'Henri VIII et qu'Elisabeth Ier, parce qu'Elisabeth Ier est aussi une reine assez importante dans cette dynastie. Et pourtant, finalement, il a fait bien plus pour établir une monarchie puissante. En effet, donc quand il devient roi, Henri VII, la guerre des Roses vient de se terminer, ce qui fait que la plupart des nobles anglais qui se sont battus entre eux sont décédés dans les combats ou ont été vaincus. Ce qui signifie, bien entendu, pour le roi Henri VII, qu'en fait, il a accès à beaucoup plus de pouvoir. Donc, il a des pouvoirs, il a de l'argent aussi, ce qui permet pour lui d'instaurer une monarchie britannique qui est plus puissante et dont le pouvoir sur son pays est imposant. Il partage les mêmes idées et les mêmes opinions que les classes grandissantes de marchands et de gentilshommes, qui soutiennent que le commerce et les échanges sont bénéfiques pour l'État, ce qui est quand même assez moderne, puisqu'on commence à parler d'échanges commerciaux alors qu'on est à la fin du XVe siècle seulement. Mais, donc, que les échanges commerciaux sont importants, mais que la gloire et la guerre n'offrent pas la bonne réputation au pays. Donc, vous voyez, c'est quand même assez, pour l'époque, assez révolutionnaire. C'est pour cette raison qu'Henri VII, en fait, évite les conflits avec les pays ennemis voisins, comme la France ou même l'Écosse, en ayant recours à l'espionnage, ce qui lui permet d'éviter des guerres officielles, mais il saurait quand même, au cas où, on ne sait jamais, des fois que les pays voisins décideraient d'attaquer, il faut quand même les surveiller un petit peu. Henri VII développe donc tout un réseau de surveillance, et lorsque la guerre avec l'Écosse menace, il emploie même jusqu'à 46 espions. Ces espions sont en fait un mélange d'Écossais frustrés, de Picards, même donc de Français, ou encore de marchands, dans l'ouest de l'Angleterre pour infiltrer les affaires domestiques en complément des affaires militaires. Henri VII est donc le premier roi d'Angleterre à recourir au réseau d'espions pour intervenir sur le sol anglais. Donc non seulement il surveille ses voisins, mais il surveille aussi sa population. L'espionnage évolue donc vers une certaine professionnalisation, car les informations qu'il collecte sont analysées régulièrement et jouent donc un rôle prépondérant dans la politique de son gouvernement. Il est aussi très économe, ce brave Henri VII, puisqu'à sa mort, il laisse, donc en 1509, il laisse la somme de 2 millions de livres sterling, ce qui est l'équivalent de 15 années de revenus à son successeur, c'est-à-dire Henri VIII. Henri VIII qui va être l'opposé total de son père, c'est-à-dire qu'il va dépenser énormément d'argent, et il va en fait dépenser tout ce que son père a mis de côté, ce qui est un peu dommage, mais bon. Donc il est très célèbre, Henri VIII, pour le coup, pour le gaspillage des économies de son père. Il cherche en fait à se faire plaisir, et pour cela dépense à ne plus compter. Son souhait, en fait, c'est de devenir le monarque le plus influent d'Europe, bien que l'Angleterre, à l'époque, ne soit moins puissante que des pays comme la France ou l'Espagne. L'Angleterre n'est encore pas reconnue comme un pays puissant. Donc, il dépense énormément. Dans quel type de choses? Il dépense énormément d'argent, d'abord pour maintenir une cour magnifique, et aussi pour mener des guerres dans lesquelles, finalement, l'Angleterre n'a que peu à gagner. Pendant tout le long de son règne, Henri VIII cherche des moyens aussi, du coup, comme il en dépense beaucoup, il faut aussi des moyens de gagner de l'argent. Et étant donné que son père était devenu puissant en récupérant les terres des nobles anglais, Henri VIII, lui, va s'attaquer pour récupérer de l'argent aux privilèges de l'Église catholique. En Angleterre, bien sûr. Donc, pourquoi l'Église catholique? Parce que le gouvernement anglais, en fait, verse des taxes. Donc, s'il arrive à récupérer les taxes, plus les terres, plus les monastères, etc., il va pouvoir récupérer un certain nombre d'argent pour le gouvernement britannique. Donc, en 1510, il se marie avec Catherine d'Aragon, mais en 1526, sans aucun héritier masculin, qui ait survécu à l'enfance, Henri essaye de persuader le pape de lui accorder le droit de divorcer, mais ce dernier refuse pour ne pas déplaire à Charles V, qui est en fait le neveu de Catherine. Voilà, donc la colère d'Henri VIII le pousse à rompre les liens entre l'Angleterre, ou Londres, et Rome. Okay. Donc en 1531, il persuade les évêques de le nommer à la tête de l'Église anglicane. Un accord est légalisé d'ailleurs en 1534 avec l'acte de suprématie. Donc avec l'acte de suprématie, finalement, le roi d'Angleterre devient roi d'Angleterre, du son royaume, et aussi chef de l'Église anglicane. Donc c'est à partir de ce moment-là que les Britanniques, en fait, enfin les Anglais, deviennent anglicans et laissent de côté, entre guillemets, la religion catholique. Donc c'est à partir de là aussi qu'Henri VIII va pouvoir récupérer les monastères et les terres, etc., etc. Donc comme la majorité de la population, malgré tout, Henri VIII reste catholique. En fait, c'est un catholicisme politique. Donc c'est uniquement, non pas pour des questions religieuses, mais c'est uniquement pour la politique et pour être plus puissant qu'il décide de se couper de la religion catholique. Donc il passe pour cela toute une série de lois entre 1532 et 1536 qui poussent donc l'Angleterre vers le protestantisme politique. Pour vous donner une idée, entre 1536 et 1539, il ferme 560 monastères en Angleterre pour récupérer de l'argent et aussi pour obtenir les bonnes grâces de la classe de marchands et de propriétaires terriens à qui il revend ses terres, les monastères. Donc lui récupère l'argent et eux récupèrent du pouvoir étant donné qu'ils ont plus de terres dans leur royaume. Donc Henri VIII meurt en 1547 en laissant sa sixième femme, qui s'appelle Catherine Parr, avec ses trois enfants. Mais l'époque des Tudors voit un nouveau type d'information se développer avec l'augmentation du nombre de diplomates dans les pays européens et aussi internationaux. Et les diplomates à l'époque sont vraiment considérés comme des espions, puisque Philippe de Comines déclare, en l'occurrence, il n'y a aucune différence entre un messager, un espion ou un diplomate. Donc il met un peu tout le monde dans le même sac. Et donc c'est pour cette raison qu'Henri VIII est le premier à pratiquer l'ouverture et la lecture des courriers diplomatiques, parce que ça peut lui amener un certain nombre d'informations, et qu'il utilise la base de Calais dès 1530 comme une véritable base d'espionnage, d'où les informations sont transmises à Douvres par bateau. À l'époque, Calais est anglais. Alors Henri VIII et l'Irlande, puisque le sujet quand même principal c'est l'Irlande. Henri VIII décide, bien entendu, toujours dans son objectif de gagner plus de pouvoir, de plier l'Irlande à son autorité, exactement comme il l'a fait pour le Pays de Galles. Les rois précédents, en fait, laissaient les familles de nobles anglo-irlandais, qui étaient assez puissants, régner sur le pays. Mais Henri VIII, en fait, détruit leur pouvoir et persuade le Parlement de le reconnaître en tant que roi d'Irlande. Le problème avec l'Irlande, c'est que ça ne se passe pas tout à fait comme en Angleterre. Henri VIII essaye de faire accepter la réformation de l'Église anglicane à l'Irlande, mais en Irlande, donc, les monastères et l'Église catholique jouent un rôle crucial, notamment dans la vie économique et sociale. Et de plus, la noblesse irlandaise et l'aristocratie refusent de racheter les terres de l'Église, car ils trouvent la situation trop dangereuse. Et on va même aller jusqu'à un certain jour où un noble anglo-irlandais se rebelle carrément contre Henri VIII au nom du catholicisme. Donc, non seulement Henri VIII échoue dans sa tentative de contrôler l'Irlande, mais en plus, il crée le sentiment de nationalisme catholique irlandais pour la première fois et pousse les Irlandais à lutter contre la domination anglaise. Donc, je passe Henri VII qui a un règne assez court, Marie I aussi que vous avez toujours à l'écran, et je vais passer directement, si ça ne vous embête pas, à Élisabeth Ière, qui apporte, elle, la puissance et la gloire à l'État britannique en combattant les grandes puissances européennes. Notamment, vous avez dû entendre parler de la bataille de la Grande Armada en 1588 contre la marine espagnole. Et malgré tout, même si on gagne en puissance et en gloire, en 1603, l'Angleterre n'est toujours pas considérée comme un pays assez puissant pour rivaliser avec la France et l'Espagne. D'un point de vue domestique, Élisabeth Ière essaye de gérer la masse des pauvres et des mendiants, bien que le prix global de la vie augmente considérablement et que du coup on augmente aussi le nombre de pauvres en Angleterre dans les années 1603-1610. On est en pleine période de renaissance, ce qui veut dire que les courriers diplomatiques et les échanges diplomatiques prennent toujours de plus en plus d'essor. Et donc, si on revient toujours sur les méthodes d'espionnage et d'interception de courriers, cela impose aussi l'utilisation des méthodes de cryptage toujours plus complexes dans un monde où les diplomates ont pour pouvoir de transmettre toutes les informations possibles à leur gouvernement, quelle que soit la nature de l'information. D'ailleurs, alors je ne sais pas si vous connaissez ce tableau, l'amour d'Élisabeth Ière pour l'espionnage se devine aisément dans le Rainbow Portrait qui est ici. Alors je ne sais pas si vous distinguez bien, mais en fait dans sa robe, on voit des oreilles et des yeux. Et en fait, ce tableau est vraiment symptomatique de l'amour et du recours d'Élisabeth Ière, étant donné que voilà, l'échange avec d'autres pays se développe. Il faut aussi surveiller ces pays qui peuvent devenir dangereux. Donc voilà, et elle est représentée sous cette forme-là. Donc sur le plan international, justement, le réseau d'espions qui est construit, c'est le réseau de Walsingham, qui se révèle être très efficace au point de vue des informations qu'il collecte, par exemple, sur l'armada espagnole, et c'est grâce à ces informations, notamment, que l'Angleterre a pu sortir victorieuse de la grande bataille. De plus, donc sous le règne d'Élisabeth Ière, Walsingham, qui est le chef du service d'espionnage, est l'un des pères des fondateurs des services modernes de renseignement. Sa tâche est celle d'établir un réseau d'agents opérant à la fois sur le sol anglais et sur le sol étranger, qui reflète le souci de la reine de récupérer des informations sur les activités des conspirateurs catholiques, notamment comme le roi Philippe II d'Espagne, qui sont en lien direct en fait avec l'Irlande, puisqu'ils sont catholiques. Donc la France et l'Espagne, bien entendu, soutiennent l'Irlande. Donc par cela, ils sont dangereux. Ils peuvent aider l'Irlande à se soulever. C'est ce qu'ils feront d'ailleurs plus tard. En 1686, par exemple, la conspiration menée par un jeune noble catholique, Anthony Babington, qui vise en fait simplement le renversement d'Élisabeth Ière et l'installation de sa cousine qui est catholique, Marie Stuart, sur le trône, est découverte grâce à l'agent double Gilbert Gifford. Ce dernier, qui est chargé de transporter la correspondance et les messages secrets échangés entre Marie et Babington, intercepte certains courriers, les recopie, en fait il ouvre les enveloppes, il intercepte les courriers, il les recopie en imitant l'écriture et les redonne donc à Babington qui ne voit rien et qui en fait c'est ce qui lui permet de manipuler des deux côtés, de savoir à quel moment aura lieu le soulèvement et le complot et en même temps de manipuler Marie Stuart et de lui donner un faux rendez-vous. Donc elle va se faire, la pauvre, elle va se faire avoir. Du coup, tous les conspirateurs vont être arrêtés, condamnés à mort pour trahison. Et la reine Marie Stuart va être même exécutée dans un château devant 300 témoins, histoire de montrer un peu l'exemple, le 5 février 1587. Alors, comme tout à l'heure, on a fait Henri VIII et l'Irlande, on va revenir sur Élisabeth et l'Irlande. Élisabeth I et l'Irlande, donc sans en fait le risque d'une invasion étrangère en Irlande, comme on disait tout à l'heure, soit par les catholiques espagnols, soit par les catholiques français, peut-être qu'en fait les Tudors auraient laissé tomber la conquête de l'Irlande par tous les moyens, parce que c'était vraiment par tous les moyens. Mais comme l'Europe catholique est très intéressée par l'Irlande, il faut que l'Angleterre la garde sous sa coupole et donc augmente en fait la pression. Pourquoi ? Parce qu'une invasion permettrait forcément à l'Espagne et à la France d'attaquer plus facilement l'Angleterre, étant donné qu'il n'y a plus qu'une une mer à traverser. Et que en 1580, plusieurs Irlandais, encouragés en fait par les arrivées de soldats français et espagnols, commence à se rebeller violemment contre la couronne britannique. C'est pourquoi les soldats de la reine Élisabeth Ière attaquent très cruellement la population rebelle irlandaise qu'ils dépeignent déjà comme des sauvages ou des gens primitifs. Donc cette dynastie finalement Tudor, pendant toute la dynastie, les Tudors mènent 4 guerres au total contre l'Irlande pour faire accepter leur autorité et leur religion. Ils parviennent à détruire le vieux système gaélique qui était basé sur des clans, comme en Écosse, et finissent par imposer leur propre gouvernement. L'Irlande devient alors la principale colonie anglaise. L'effet du gouvernement anglais est plus fort dans le nord, en fait. Donc on n'a encore pas la partition, mais malgré tout, dans le nord, on sent plus le gouvernement anglais. Pourquoi ? Parce que les tribus irlandaises luttent avec plus de force. Donc l'Angleterre décide de mettre plus de puissance aussi dans le nord de l'Angleterre. les Irlandais d'origine sont forcés de quitter leurs terres et de travailler pour les colons britanniques, qui récupèrent les terres les plus arables, les terres les plus rentables. Donc les Britanniques finalement récupèrent tout, la totalité, et forcent les Irlandais, en les traitant de sauvages, etc., à travailler sur leurs terres pour eux. Une situation d'ailleurs qui est toujours d'actualité en Irlande du Nord, puisque en Irlande du Nord de nos jours, les protestants possèdent toujours les meilleures terres, alors que les catholiques ne conservent que les plus pauvres. Le comté de Derry est partagé entre les marchands londoniens à l'époque, qui appartiennent aux guildes de commerçants de la capitale britannique. Donc en fait, ils prennent la ville et ils se la divisent entre eux, simplement, comme s'ils étaient conquérants, comme s'ils étaient, voilà, et on ne demande pas l'avis de la population, on prend. Ils rebaptisent la ville aussi Derry, et ils l'appellent Londonderry. Et cette colonisation ne rend pas vraiment finalement l'Angleterre plus riche. Par contre, au niveau de l'Irlande, elle détruit totalement la société et l'économie irlandaise de l'époque, et surtout pose les fondations de la guerre entre catholiques et protestants en Ulster. Alors Ulster, c'est un mot plus récent qu'on verra au prochain cours, mais malgré tout, voilà, c'est déjà les bases sont posées pour le conflit. Alors, c'est tout pour les Tudors. Ensuite, vous avez la dynastie Stuart, qui est plus rapide, puisque la dynastie Stuart, finalement, c'est des rois qui sont moins célèbres, qui sont moins puissants que les Tudors. Ces rois, en fait, vont lutter contre le Parlement lui-même, et ce qui va déboucher, en fait, cette lutte sur la guerre civile anglaise. Alors, le seul roi, en fait, Stuart britannique, qui est jugé et exécuté, comme en France, d'ailleurs, est un Stuart. Mais la République, donc, qui suit, puisqu'il y a la guerre civile, la République qui suit, en fait, l'exécution du roi, qui est dirigée par Oliver Cromwell, est encore moins célèbre et reconnue que la monarchie, ce qui pousse la population à demander le retour de la monarchie sur le trône. Donc un autre Stuart, par exemple James II, dont vous avez les dates à l'écran, souhaite revenir aussi vers le catholicisme, et pourtant il est destitué par sa propre fille, qui épouse un Hollandais qu'on connaît bien, qui s'appelle Guillaume d'Orange, qui est invité lui-même par le Parlement à envahir l'Angleterre. Quitte à faire. Et donc il est élu roi par des élections parlementaires. Donc lorsque la reine Anne meurt en 1714, donc la dernière de la dynastie Stuart, la monarchie anglaise n'est plus du tout une monarchie absolue, elle est devenue une monarchie parlementaire, régie par une constitution. Ces changements sont aussi liés à l'évolution, bien entendu, de la société britannique tout au long du XVIIe siècle, où en fait le véritable pouvoir se place non plus entre les mains du roi comme pendant la dynastie Tudor, mais entre les mains des marchands et des classes de propriétaires terriens agricoles. En raison de ce pouvoir, la couronne ne peut plus se permettre de diriger le pays sans le consentement de son parlement et sa coopération au moyen de la Chambre des communes au parlement. De plus, de nouvelles pensées à l'époque qui sont révolutionnaires, comme notamment l'arrivée de la science, l'âge de raison, influencent aussi la manière de gouverner, ce qui explique pourquoi les rois Stuart sont beaucoup moins puissants que les rois Tudor. Le rôle de l'Irlande dans le déclenchement de la guerre civile anglaise est prépondérant. En effet, en 1638, Charles I fait face à un groupe de rebelles écossais, face auquel il recrute une petite armée non expérimentée par manque de moyens. Étant donné qu'il ne pourra pas gagner la guerre, il le sait, il se plie aux libertés religieuses et politiques de l'Écosse et accepte d'offrir une grosse somme d'argent aux Écossais pour qu'ils retournent chez eux. Néanmoins, pour rassembler cet argent qu'il n'a pas, Charles a besoin, bien entendu, de l'accord du Parlement. Ce dernier en profite donc pour le forcer à le consulter et à leur assembler une fois tous les 3 ans. Charles, qui souhaite diriger son pays grâce à son ordre divin, son droit divin, et évincer le pouvoir du nouveau Parlement, est sur le point d'enfreindre l'accord du traité avec lui lorsqu'une rébellion contre les colons écossais et les anglais protestants éclate en Irlande en 1641. Donc déjà, il est en position de faiblesse puisqu'il est obligé de négocier pour gagner cette guerre en Écosse, et l'Irlande se rebelle. En effet, la colonisation de l'Ulster se poursuit, et non seulement les catholiques irlandais sont expulsés de leurs terres, comme on disait tout à l'heure, mais ils sont remplacés, cette fois, par des travailleurs protestants, et ne peuvent donc plus du tout travailler pour les colons. La rébellion est même si violente en Ulster que 3000 personnes, femmes et enfants, sont tuées en Irlande du Nord. À Londres, Charles I et le Parlement se querellent à nouveau sur le contrôle de l'armée qui doit mettre fin à la révolte irlandaise. Donc si le problème avec l'Écosse a rendu Charles dépendant du Parlement, on peut dire que la révolte irlandaise le mène tout droit vers la guerre civile, car le Parlement craint que Charles ne lève une armée non pas pour résoudre le problème irlandais, mais pour dissoudre le Parlement par la force et récupérer sa monarchie d'ordre divin qu'il cherchait depuis le début. De plus, les rebelles irlandais prétendent lutter contre le Parlement anglais protestant et non contre le roi lui-même. En fait, en 1642, Charles essaye d'arrêter 5 membres du Parlement et bien qu'il n'ait pas réussi, les craintes du Parlement se matérialisent. Londres ferme ses portes et le roi s'enfuit à Nottingham où il lève une armée pour défaire les membres du Parlement qui sont opposés à lui. Et donc voilà, on est en pleine guerre civile. La guerre civile éclate et je vous passe la guerre civile, mais elle se termine par la défaite de l'armée royale en 1645 à Naseby. La monarchie continue de perdre ses pouvoirs et Oliver Cromwell prend la tête de la République anglaise, mais son protectorat est pire que le règne des monarques précédents. En Irlande, le catholicisme de James II renouvelle les espoirs des Irlandais qui ont perdu leur terre. Ils disent que peut-être avec un roi qui revient un peu à la surface, peut-être qu'ils vont récupérer leur terre qu'ils ont perdue. Et en 1688, la Révolution glorieuse menée par les nouvelles classes dominantes souhaite le retour d'un roi à la tête de l'Angleterre. Un roi qui serait choisi par le peuple, donc on en a parlé tout à l'heure, Guillaume d'Orange, qui est hollandais et protestant. En 1689, lorsque James II perd son trône d'Angleterre, il envahit l'Irlande avec le soutien français et pense pouvoir contre-attaquer, en fait, depuis l'Irlande. À Dublin, le Parlement catholique s'empresse de voter une loi pour récupérer toutes les propriétés des mains des protestants en Irlande. Cependant, 30 000 protestants s'enferment dans la ville de Londonderry, rebaptisée par les Britanniques, et James, en fait, encercle la ville. Mais les rebelles refusent de se rendre. Après une lutte acharnée de 15 semaines, les bateaux anglais accostent en Irlande avec des ravitaillements et des nouvelles recrues, ce qui met fin à la bataille de Londonderry. En 1690, le roi William accoste en Irlande et défait l'armée de James lors de la bataille de la rivière de la Boyne, qui signifie la victoire totale des protestants. James quitte l'Irlande et ne reviendra jamais dans l'un de ses royaumes. Le cri des protestants de l'époque de Londonderry, « No surrender », est d'ailleurs toujours celui qui est utilisé par les protestants en Ulster de nos jours. C'est même si vous êtes en Irlande du Nord, parfois sur les fresques murales, vous pouvez lire « No surrender » et ça date déjà de 1690, donc de l'époque. Je vous parlais tout à l'heure de l'évolution de la société britannique. Alors c'est intéressant, me semble-t-il, de faire un petit tour là-dessus. Au XVIIe siècle, donc, la société anglaise évolue vers le puritanisme religieux. Donc on parle de révision de la Bible, de création de nouveaux groupes religieux comme les Lèveleuses, les Baptistes ou les Quakeuses. Et tout ça se cumule avec des nouvelles pensées scientifiques qui étudient le monde naturel. Par exemple, en 1666, vous avez Sir Isaac Newton qui est professeur de mathématiques à l'université de Cambridge qui étudie la gravité. Et en outre, l'augmentation rapide du taux d'alphabétisation et l'amélioration des techniques d'impression donnent aussi naissance au premier journal, qui symbolise donc une nouvelle façon de diffuser et de faire connaître les développements scientifiques et les nouvelles pensées à la fois religieuses ou littéraires. Donc au XVIIe siècle, l'Angleterre possède aussi de plus en plus de colonies et donc commence à s'enrichir en parallèle avec le développement de toutes ces nouvelles découvertes. Elle entre donc en compétition avec les autres grandes puissances coloniales européennes, par exemple je pense au Portugal, à l'Espagne, la France ou même les Pays-Bas. Donc en 1670, son commerce est même en plein essor. Elle exporte par exemple des céréales vers l'Europe, puisque l'Europe en fait a souffert de la guerre de 30 ans, donc les conditions de vie sont très difficiles, ce qui permet à l'Angleterre de placer sa production. Et dans la seconde moitié du XVIIe, les conditions de vie pour les pauvres et les mendiants s'améliorent de manière globale en Angleterre, puisque le prix de la vie globale baisse. Alors je voudrais justement revenir sur cette période, à la comparaison entre les capitales, c'est-à-dire Londres et Dublin, qui sont deux capitales en devenir. En 1650, par exemple, donc je vais commencer par Londres, Londres est la plus grande, la plus importante ville du royaume. Pour vous donner une idée, elle compte environ 500 000 habitants. Voilà, et contrôle la quasi-totalité du commerce maritime avec les autres pays. D'autres grosses villes importantes en Angleterre sont Norwich, Newcastle et Bristol, qui comptent, pour vous donner une idée, 25 000 habitants chacune, alors que Londres en a déjà 500 000. Donc elle se place bien en tant que capitale. En 1666, vous avez la Grande Peste qui frappe la ville de Londres, donc vous avez plusieurs représentations ici, sous forme de tableau, et décime plus de 68 000 londoniens en 6 mois. Soit, si on fait un petit calcul rapide, la totalité des trois villes mentionnées plus haut. En 1666, donc après la peste, pardon, je me suis trompée, les tableaux, c'est pas sur la peste, c'est sur le grand feu de Londres qui a lieu l'année suivante, excusez-moi, et qui détruit la ville. Donc, bien entendu, voilà, face aux deux massacres, Londres subit beaucoup de... Il y a beaucoup de pertes civiles, mais si on voit le côté positif des choses, elle est aussi, ce grand feu est aussi signe d'évolution et de changement, notamment dans les conditions de vie. Puisque les riches propriétaires qui doivent reconstruire leur maison, ont accès à l'eau, notamment grâce à la construction de tuyaux en bois, ce qui est pour l'époque déjà quand même assez révolutionnaire. Les rues de la capitale londonienne deviennent aussi embouteillées que de nos jours, c'est quand même quelque chose, et avec encore plus de bruit, puisque ce n'est pas des voitures qui roulent, et encore moins des voitures hybrides ou je ne sais quoi, mais bien en raison du bruit qui est produit par les roues en fer des chariots, des calèches, etc., des diligences, et aussi le martelage des artisans de la ville. Donc on peut dire en fait que Londres, à partir de 1650, les nouvelles classes de riches aristocrates voient leurs conditions de vie bien évoluer, et ils commencent aussi à se rencontrer dans les coffee houses, qui sont très à la mode pour discuter politique, philosophie. Donc on sent une évolution vraiment de la société au niveau de l'échange des idées, et du coup une meilleure circulation aussi des idées dans le pays. Alors, ça c'est pour Londres, donc voilà, ça c'est la cathédrale Saint-Paul en feu. Passons maintenant à Dublin. Non, alors Dublin, j'ai pas d'image en fait, oui, ça viendra après. Parce que Dublin, à l'époque, justement, ce que je vous disais tout à l'heure, plus difficile de trouver des documents sur Dublin médiéval, parce que la ville n'est encore pas développée aussi, de manière aussi importante que Londres. Donc en fait, la ville de Dublin, depuis 1182, elle s'autogère. Donc elle a signé une charte avec Londres qui lui permet justement, qui lui offre la responsabilité de gouverner elle-même sa propre ville. Le Lord Mayor, les shérifs et les nobles régulent donc la vie dublinoise avec une certaine liberté par rapport à la capitale de Londres. En fait, la couronne à Dublin est représentée par le Lord Mayor qui établit les règles et les lois auxquelles les Dublinois doivent se plier. Alors, dans les années 1590, Dublin commence à attirer de plus en plus de population, notamment de la campagne, et se transforme déjà en capitale du pays. Alors, on n'est pas à l'échelle de Londres, mais ça commence à devenir assez flagrant. Du coup, quand vous attirez de plus en plus de populations, notamment rurales, de l'extérieur, qui arrivent dans ces grandes villes pour trouver du travail et qui n'en trouvent pas forcément, étant donné que la ville ne grossit pas aussi vite que l'afflux de gens de la campagne, ça veut dire aussi que le crime et la pauvreté et la criminalité, les vols, alors pas tout de suite les meurtres, mais bon, les vols notamment, vont commencer à augmenter. Donc face à cette augmentation de criminalité, la ville de Dublin organise des patrouilles qui sont organisées dans les rues pour rendre la ville plus sûre. Et les criminels sont très régulièrement, en guise d'exemple, très régulièrement pendus dans le parc de St. Stephen's Green en plein cœur de la ville. Mais le problème, c'est que les pendaisons attirent une foule de plus en plus importante et que du coup, cette foule devient très difficile à gérer pour le nombre de shérifs qui sont présents à l'époque. Donc, face à la difficulté de gestion du mécontentement des foules, pendant la cérémonie autour, alors en anglais c'est « the fatal tree », c'est vraiment l'arbre fatal, puisqu'on les pend toujours sur le même arbre en fait, ça doit représenter quelque chose. Donc le gibet en fait est transféré devant les prisons, donc notamment à Dublin devant la prison de Newgate en 1783, au nord de la ville, pour rendre le spectacle un petit peu plus solennel et pour éviter les rassemblements d'un trop grand nombre de personnes. Donc bon, là c'est en dehors de nos dates, mais après en fait le gibet va être même carrément réintégré à l'intérieur de la prison pour éviter l'affluence de la population et notamment le conflit qui va opposer les forces de police à la foule en fait. En outre, les surnoms qui sont donnés aux potences, City Crane par exemple, ou The Fall of the Fall, dévoilent une ville en pleine évolution, justement, où des pénitenciers sont construits. C'est la première fois qu'on construit des pénitenciers en Irlande, ce qui n'est pas le cas en Angleterre, et commencent à caractériser un paysage urbain. Donc là, on passe vraiment du Dublin médiéval, du petit, même petite bourgade, j'allais dire, à une ville plus ville, quoi, plus industrielle, avec des bâtiments, etc. Donc moins, beaucoup moins, plus urbaine et beaucoup moins ville de campagne, en fait. Alors, tout ça m'emmène au XVIIIe siècle, avec la dynastie des Hanovre. Donc, à partir de 1750, en fait, vous avez une grosse croissance. Je reviens sur la Grande-Bretagne, sur l'Angleterre. Et au XVIIIe siècle, la Grande-Bretagne donc est même aussi puissante que la France, notamment en raison de l'essor de son industrie, mais aussi celui de son empire, qui lui apporte richesse et prospérité. Elle possède, pour le coup, la plus grande puissance et la plus grande force maritime du monde, et contrôle les routes commerciales mondiales. La Grande-Bretagne assiste aussi à ses révolutions industrielles et agricoles. Elle voit notamment la création du prolétariat dans des villes qui deviennent des grosses villes industrielles notamment, je pense notamment au nord de l'Angleterre et aussi à Birmingham, qui sont des grosses villes commerciales qui sont propulsées par l'invention des machines, on disait tout à l'heure l'évolution de la science, et aussi la multiplication des industries dans les villes comme donc Liverpool, Manchester, Glasgow, Birmingham, etc., etc. Donc cette nouvelle puissance conduit Londres dans un grand nombre de conflits avec ses voisins, pour le coup, notamment la France et l'Écosse, qui du coup vont s'allier ensemble pour lutter contre la Grande-Bretagne. Ce qui décuple, si on revient un peu sur nos espions, forcément quand vous avez plus d'ennemis, ça veut dire aussi que vous avez besoin d'un réseau d'espionnage qui est plus développé. Donc militairement, la puissance de la Grande-Bretagne se confirme dans des victoires contre la France, précisément. Par exemple, en 1759, la Grande-Bretagne reprend le Québec à la France. L'année suivante, en 1760, l'Angleterre reprend Montréal à la France, avant de faire la paix avec la France en 1763. Histoire de... voilà. En 1789, en France, toujours, la Révolution française, menée par la bourgeoisie, représente quand même une menace de taille pour la Grande-Bretagne. Pourquoi ? Parce qu'en Grande-Bretagne, la bourgeoisie anglaise gagne en puissance, notamment par le biais, comme on disait tout à l'heure, du Parlement, de la Chambre des communes, et elle craint en fait cette bourgeoisie de réveiller ses classes ouvrières et ses mendiants qui sont dans les grosses villes là, et elle craint vraiment le problème de gestion de ce prolétariat en fait. Si jamais ce prolétariat se rebellait, au niveau du nombre, ils sont beaucoup plus nombreux, et il serait beaucoup plus difficile à gérer pour la bourgeoisie. D'où la menace représentée par la Révolution française. Par rapport à l'Irlande, donc on parlait tout à l'heure de James II, la défaite qu'il a perdue en 1690, et en fait, le Parlement protestant de Dublin, suite à cette défaite, passe un grand nombre de lois empêchant les catholiques de prendre part à la vie du pays. Les catholiques ne peuvent pas voter dans les élections parlementaires, ne peuvent pas non plus devenir membres du Parlement, ils n'ont pas le droit de devenir avocat, ils n'ont pas le droit d'aller à l'université, ils n'ont pas le droit de s'engager dans la marine ou encore d'accéder à l'administration publique. Ils n'ont même pas le droit de posséder un cheval d'une valeur supérieure à 5 livres. Donc ça vous situe un petit peu, là je suis en train de poser un petit peu les jalons pour les cours suivants, là, les cours 2-3, quand on va arriver à des catholiques qui ne peuvent plus supporter leurs conditions et qui forcément vont se rebeller contre l'Angleterre. Les écoles catholiques sont interdites, ce qui fait que les catholiques ne peuvent donc pas faire éduquer leurs enfants selon leurs croyances. Bien qu'ils soient prenant plus nombreux que les protestants, les catholiques sont devenus des citoyens finalement de seconde classe, de seconde zone. Les lois divisent aussi les familles catholiques. Par exemple, il y en a une qui déclare que si un fils catholique devient protestant, c'est-à-dire change de religion, il a le droit, du coup, de prendre la propriété de ses parents et de l'utiliser comme bon lui semble. Ce qui est quand même juste qu'il change de religion. Donc là, on est vraiment sur les bases du conflit catholique-protestant. Et malgré tout, en 1770, la vie, on va dire, en Irlande, malgré toutes ces interdictions, est quand même meilleure pour tous. Et les pires lois, en fait, anticatholiques, sont retirées plus ou moins, ou du moins modifiées, sauf en Irlande du Nord, où le sectarisme est le plus fort du pays. Alors, on parlait tout à l'heure de Dublin et des forces de police. Donc là, on commence à rentrer dans une période, 1780 à peu près, de révolte agraire en Irlande. Donc face à cette montée de rébellion, et aussi pour une meilleure surveillance de la ville de Dublin, le roi George III, qui est donc de la dynastie des Hanovres, et son parlement passent une loi qui fonde la première force de police dublinoise en 1786. Donc c'est la première, bien avant la ville de Londres, alors qu'on disait tout à l'heure que la ville de Londres s'était développée plus rapidement, avait aussi beaucoup plus de criminels et notamment des serial killers, enfin ça va venir juste le siècle suivant, mais je pense par exemple à Jack l'Éventreur. Donc, si on étudie vraiment les criminels des deux villes, on n'a pas du tout le même type de criminels, c'est-à-dire qu'en Irlande c'est plutôt des criminels agraires qui s'est lié généralement à la faim, et donc c'est plutôt du vol c'est moins une attaque à la personne. Alors qu'à Londres, on est déjà sur, il y a aussi du vol, mais il y a aussi des attaques vicieuses, comme Jack l'Éventreur en 1888 par exemple. Ce qui fait que normalement, si on est logique, Londres devrait avoir une police, enfin, aurait dû construire sa police avant Dublin. Alors selon les Irlandais, ça c'est en dehors de ma feuille, mais bon, c'est intéressant à mon avis de le citer. Selon les Irlandais, en fait, il y a deux raisons. La première, c'est que Londres a besoin de surveiller Dublin. Donc va utiliser non pas des espions officiels, mais les forces de police pour surveiller la population dublinoise. Donc, et quand ils patrouillent dans les rues, ils notent absolument tout, qui fait quoi, qui possède les pubs, etc., etc. Donc c'est vraiment une surveillance très précise. Dans les archives londoniennes, on trouve vraiment tout détaillé dans les livres, tout est tenu par les forces de police. Ça, c'est la première opinion des Irlandais. Et la deuxième, c'est de dire qu'en fait, avant, ils voulaient en fait que Londres voulait construire sa propre force de police, mais qu'elle avait besoin de le tester quelque part avant de se l'appliquer à elle-même. Donc elle l'a testé sur la ville de Dublin. Puisque voilà, les Irlandais étant considérés comme des citoyens de seconde zone, on teste, on voit comment ça évolue, on voit si ça marche, et ensuite on adapte chez nous. Donc bon, après, voilà, tout dépend du point de vue, si on a point de vue irlandais ou point de vue londonien, donc bon, ça me semble quand même intéressant à souligner. Donc la ville, du coup, du jour au lendemain, la ville, les rues de la ville sont envahies par des patrouilles, puisque la loi impose des surveillances régulières. Des patrouilles qui surveillent la ville en uniforme, donc pour augmenter un peu la pression sur la population, et des centaines de criminels sont arrêtés du jour au lendemain. La ville, en gros, est divisée en 4 districts, avec la rivière Liffey au centre, et les forces de police sont même aidées par des patrouilles de paroissiens qui aussi surveillent la population dublinoise. Donc, je vous disais, en 1786, c'est la loi, et en 1808, Dublin instaure sa première force professionnelle de surveillance, qui est appelée la police métropolitaine de Dublin. Malgré tout, la ville éprouve certaines difficultés à organiser sa propre force de police, en raison de sa trop rapide transformation en capitale du pays. Alors là, je vous ai mis, en fait, en pièce jointe, donc ça, voilà, la ville de Dublin, vous voyez la rivière Liffey au centre. Et en fait, ça, c'est simplement une carte que j'ai faite pendant mes études sur les prisons pour vous montrer, tout à l'heure je vous parlais des nouveaux pénitenciers qui étaient construits à Dublin, pour vous montrer en fait la construction des prisons à la fois donc soit à Dublin, soit à Londres. Je l'ai mis deux fois, excusez-moi pour le titre. Donc ça, c'est la capitale de Londres. Vous avez la Tamise au centre et en fait, vous avez les pénitenciers qui sont tout autour. Donc vous voyez quand même que ce soit sur la capitale londonienne, c'est le 19e siècle, hein, soit sur la capitale dublinoise, que les prisons sont quand même généralement construites autour de la rivière, pour une raison toute simple, c'est qu'un prisonnier sur deux, voire même sur trois, est stocké, entre guillemets, dans les villes de Dublin et de Londres, donc en fait on ramène les prisonniers dans les capitales, où des bateaux attendent les prisonniers pour les emmener, alors ce que nous on appelait le bagne, mais ce que en fait appelait simplement l'Australie, ou la Tasmanie, ou voilà. Donc au départ, en fait, ils envoient les prisonniers aux États-Unis et au Canada aussi, en Amérique et au Canada. Et 1850, les États-Unis commencent à dire stop, enfin l'Amérique à l'époque commence à dire on veut plus, on a trop de prisonniers, on peut plus les stocker, donc il faut que vous trouviez un autre endroit où les envoyer. Donc la Grande-Bretagne possédant l'Australie s'est dit au moins l'Australie c'est loin, donc on va les envoyer là-bas. Donc en fait, c'est la raison pour laquelle principalement les prisons sont construites le long des rivières. Et c'est aussi ça qui permet de dire qu'une ville est, comment dire, une ville moderne entre guillemets, mais qu'elle devient une vraie ville, comme je vous disais tout à l'heure, l'évolution de Dublin, de bourgade, à ville qui gère aussi les prisonniers du pays en intégralité. Voilà, alors ensuite je voudrais parler de la... Tac, tac, tac. Attendez, je vais faire comme ça. Donc, de la rébellion de l'Irlande en 1798 et aussi de la signature de l'acte d'union en 1807. Donc, au XVIIIe siècle, l'impact de la révolution française sur l'Irlande, on en a parlé tout à l'heure pour l'Angleterre, mais pas sur l'Irlande, et même sur toute l'Europe, se ressent. La résurrection des idées romantiques a lieu et le mouvement des Volunteers renaît grâce à l'exemple du soulèvement donné par les Français aux Irlandais, qui n'hésite pas à s'allier à la France pour se soulever contre la Grande-Bretagne. Néanmoins, enfin l'Angleterre. Néanmoins, ses membres tels que des marchands ou les négociants ne sont plus issus des classes dominantes comme par le passé, mais des classes moyennes. Ils sont donc plus proches de la population. En 1791, le mouvement des United Irishmen se développe, notamment à Belfast, qui est un centre révolutionnaire, comme on l'a dit tout à l'heure. Et en 1797, les provinces de Leinster et de Munster, c'est-à-dire celles du sud, se révoltent. Les troupes anglaises reçoivent l'ordre de malmener les rebelles pour déclencher l'insurrection de 1798. Malgré l'apparent échec de la rébellion de 1798, en raison de quoi ? En raison de l'arrestation de ses dirigeants politiques, on peut dire quand même qu'une tradition de violence révolutionnaire voit le jour en Irlande. En effet, selon Paul McMahon, quatre ingrédients sont communs aux futures révoltes irlandaises, si on part de 1798 à 1922. La première, la société secrète. La deuxième, la violence physique. Le troisième, les idées républicaines. Et le quatrième, la volonté d'obtenir l'aide des ennemis de l'Angleterre. Donc la rébellion de 1798 représente une sérieuse menace pour l'administration anglaise qui souhaite agir pour garder le contrôle de l'Irlande. Pour cela, elle propose à l'Irlande de signer un acte, l'acte d'union, dans lequel le Parlement irlandais serait dissous et représenté à Londres par une centaine de membres élus, dont 4 membres du clergé et 28 pairs héréditaires. Bref, les 8 articles qui composent le traité établissent un commerce libre entre les deux pays. Et l'Irlande conserve ses propres ministères, notamment ceux de la justice et celui des finances, si ce n'est qu'elle devient responsable d'un 1/17 des dépenses globales du royaume. L'Église anglicane, pour le coup, devient religion officielle de l'État d'Irlande et aucun catholique ne peut exercer une quelconque fonction publique, comme d'habitude. Face aux réticences des membres du Parlement de Dublin à signer le traité, William Pitt confie à Lord Cornwallis, qui est le plus haut représentant de la couronne en Irlande, la tâche, je cite, « d'acheter et de corrompre les parlementaires irlandais pour qu'ils abolissent eux-mêmes leur Parlement » en acceptant de signer l'acte d'union. Donc voilà, c'est en gros ce qui va se passer. Sauf que Lord Cornwallis est face à un problème qui est quand même de taille, puisque comme ils ont déjà fait la même chose avec l'Écosse, l'Irlande s'attendait un petit peu à ce type de fonctionnement. Donc les parlementaires en fait demandent des sommes un peu colossales d'argent, en disant « Ok, vous voulez nous corrompre, mais il va falloir faire votre chèque et passer à la caisse ». Donc Lord Cornwallis est obligé d'offrir des pensions, donc de l'argent aussi, des titres et des terres. Donc finalement, c'est un acte d'union, une signature qui coûte quand même relativement cher à l'Angleterre, étant donné que, bon, ils ont bien voulu se laisser manipuler, mais sous certaines conditions. De plus, pour s'assurer de l'acceptation de l'acte d'union, William Pitt est obligé de promettre aux Irlandais de voter une loi développant l'émancipation des catholiques. Donc, le 1er janvier 1801, l'acte d'union est ratifié, Dublin est OK, Londres est OK, et du coup, on voit la création du Royaume-Uni, de Grande-Bretagne et d'Irlande, qui est créé en 1801. Donc, le château de Dublin dépend son petit Union Jack, et insère, en fait, dans le drapeau d'Angleterre, vous avez l'insertion de la croix de Saint-Patrick. Mais, bien entendu, c'était une manipulation, donc dans les faits, George III use de son droit de veto pour bloquer le passage de la loi promise, ce qui accélère l'émergence d'un mouvement en faveur de l'émancipation des catholiques, et celui-ci réclame l'abolition pure et dure de l'acte d'union et la création d'un nouveau parlement irlandais en vue de l'autogouvernance. Donc c'est là-dessus, en fait, que les mouvements politiques vont se baser pour se révolter contre la Grande-Bretagne. Donc la population irlandaise se tourne de nouveau vers ses valeurs traditionnelles et son folklore, ainsi que vers la lutte pour une nation irlandaise. On voit la naissance notamment d'associations nationalistes, donc elles peuvent être ces associations politiques comme le Sinn Féin, qui actuellement est assez célèbre en Irlande du Nord. Elles peuvent être ces associations culturelles comme la Gaelic League et aussi économiques comme l'Industrial Movement. Leur point commun en fait réside dans la fierté des valeurs du passé, qui doivent permettre aux Irlandais de retrouver le respect d'eux-mêmes pour pouvoir construire un futur libre. La société irlandaise des 19e et 20e siècles est placée sous le regard permanent de la couronne britannique, comme on disait tout à l'heure aussi, qui craint toutes ses dérives remettant en cause son pouvoir et son union avec l'Irlande. Et qui, pour cela, bien, je reviens sur mes espions, place des espions dans toutes ces sociétés secrètes et toutes les associations que je vous ai citées précédemment. La puissance conférée par ce réseau joue un rôle prépondérant dans l'image que Londres renvoie dans le monde. En effet, selon Pierre Joannon, même Napoléon n'ose pas réellement attaquer la Grande-Bretagne de front, tellement ce pays est puissant au début du XIXe siècle. La cause irlandaise, qui représente malgré tout un danger pour le royaume, semble perdue d'avance. Cette puissance britannique se base, comme en Écosse au siècle précédent, sur son réseau d'espions, qui permet à Londres d'anticiper les révoltes grâce aux nombreuses informations récoltées. Les agents font partie de services postaux, des douanes, mais se trouvent aussi dans le rang des diplomates, des magistrats, et comme on disait tout à l'heure aussi, au niveau politique, puisqu'on manipule le gouvernement et le Parlement. Après les guerres napoléoniennes, l'effort de guerre moindre fait augmenter le chômage en Grande-Bretagne et 300 000 hommes travaillant pour l'armée cherchent un emploi. En même temps, le prix du maïs importé chute, le prix du pain augmente et les nouvelles méthodes agricoles réduisent le besoin en main-d'œuvre, alors que les salaires restent les mêmes. Une misère s'installe et de nombreuses révoltes de paysans affamés éclatent. Les paysans essayent d'aller chasser pour nourrir leur famille, mais les propriétaires terriens clôturent leurs terres et de nouvelles lois interdisent la chasse sous peine d'être envoyés au bagne en Australie. Je vais essayer de passer ça. Donc en 1832, rapidement en Angleterre, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu, mais il y a des nouvelles lois qui essayent, des nouvelles réformes qui essayent d'aider les pauvres en fait. Et ces nouvelles lois sont déclinées sous la forme de workhouse ou maison de correction en fait. Et en fait, les gens pauvres sont aidés, mais sont aidés sous la forme de... En fait, il faut qu'ils fournissent un certain travail. Donc, ils sont plus ou moins internés, parce qu'elles ressemblent vraiment à des prisons dans leur fonctionnement. Et en fait, voilà, ils ont un toit, ils ont de quoi manger, mais ils fournissent un travail en contrepartie. Alors, donc, c'est juste rapidement pour vous citer, si ça intéresse quelques personnes. Et en fait, malgré tout, la faim et le crime sont les deux marques de la pauvreté. Et là, on va arriver justement, comme on disait tout à l'heure pour Dublin, à la création cette fois à Londres de la nouvelle force de police métropolitaine qui voit le jour en 1848, donc bien après l'Irlande. En 1848, donc, la Grande-Bretagne est le modèle à suivre pour l'Europe cette fois. Donc on a bien vu l'évolution, en raison de plusieurs choses, notamment en raison de sa capacité à éviter la révolution grâce à son gouvernement constitutionnel et aussi à sa réussite industrielle. En 1851, donc c'est la reine Victoria qu'on avait tout à l'heure à l'écran et qui nous inaugure la grande exposition universelle, je pense que c'était à Londres à cette époque-là, au Crystal Palace de Londres, qui est un symbole de la représentation de la puissance industrielle de la Grande-Bretagne. Bien entendu, je pense au charbon, au fer, à l'acier, qui à l'époque en Grande-Bretagne avait le vent en poupe. Et les visiteurs de l'exposition prennent souvent pour la première fois le train, puisque le réseau ferré britannique était quand même cité en exemple. Il y a 6 millions de personnes qui prennent le train et qui symbolisent quand même la puissance britannique en Europe et en Irlande. Et dans le monde entier, en fait, je voulais dire. J'en arrive à l'Irlande, qui au 19e siècle, en fait, voit un grand nombre d'Irlandais protestants se tourner vers la Grande-Bretagne, cette fois, pour chercher une protection contre les habitants catholiques, qui deviennent de plus en plus violents, pour qui les protestants représentent la domination anglaise, en fait. La bataille pour l'indépendance se transforme en lutte entre catholiques et protestants, et en 1829, les catholiques regagnent le droit de devenir membres du Parlement, bien que ce privilège soit accompagné de restrictions et de libertés civiles et politiques, il ravive, bien entendu, le sentiment nationaliste irlandais en pleine évolution lors de la Grande Famine. Donc c'est mon dernier point, la Grande Famine, donc 1846-1851, Les années donc 1845-1850 bouleversent la société irlandaise tout entière. Au début du siècle, la population irlandaise croît considérablement. Elle passe de 5 à 8 millions d'habitants. Et malgré tout, le problème, c'est que en fait, les mauvaises récoltes sont fréquentes, ce qui apporte souvent avec elles des famines. Alors, les premières commencent à arriver en 1817, en 1822. Gros problème pour l'Irlande aussi, c'est qu'elle est très agricole. Donc en 1840, par exemple, pour vous donner des chiffres, 4/5 des 8 millions d'Irlandais vivent de la terre. Et en plus de ça, son unique production se base sur la pomme de terre. Vraiment, il n'y a qu'une production. Donc en 1845, lorsque la mauvaise récolte touche le pays pour la première fois, on commence à avoir des problèmes. Puis la mauvaise récolte revient l'année suivante, en 1846, où en fait on a une attaque de la... c'est une brunissure de la pomme de terre qui plonge le pays dans un désespoir total. En 1847, la brunissure disparaît subitement, et du coup la population reprend espoir. Mais, bien entendu, 1848, le fléau s'abat cette fois sur toute l'Irlande, et fait beaucoup de morts. Une fois encore, je vous donne des chiffres, je crois que je les ai mis, hein, mais voilà. Vous avez 1 million de personnes qui meurent de faim ou de maladie sur 8, et on estime à 21 770 le nombre de personnes décédées dans les hôpitaux. Le problème à l'époque, c'est qu'avec les chiffres, enfin les chiffres sont très difficiles à estimer, dans la mesure où beaucoup de personnes en fait sont mortes chez elles, ont agonisé chez elles parce qu'elles ne pouvaient pas sortir, ou dans la rue, ou donc on n'a pas retrouvé tous les chiffres très précis en fait. La malnutrition et la famine apportent des famines, des maladies comme le typhus, la fièvre, le scorbut, les dysenteries qui frappent la population de plein fouet, notamment toute la région de l'ouest du pays, là où les maladies sont les plus meurtrières. Toutes les classes sociales sont touchées, les mendiants qui transfèrent et véhiculent la fièvre, les classes moyennes ainsi que l'aristocratie sont elles par rapport touchées plus par les maladies du typhus. Les services médicaux du pays sont très vite saturés, et bien que les maisons de correction ou workhouse, dont je vous ai présenté tout à l'heure, aient leur propre infirmerie, le nombre de personnes malades est trop important pour que les médecins puissent soigner tout le monde. De 1846 à 1849, le ministère de la Santé améliore le système national avec la création d'hôpitaux temporaires pour lutter contre la fièvre, mais les mesures arrivent trop tard. L'impact sur la société est terrible. Ceux qui veulent survivre émigrent vers les États-Unis ou l'Angleterre principalement. Donc le premier problème, on vient de le finir. Le deuxième, le voilà, c'est l'immigration, avec des chiffres qui sont quand même éloquents, puisque de 1841 à 1844, 50 000 Irlandais partent chaque année. Après la mauvaise récolte de 1845, l'espoir, donc on disait tout à l'heure, revient un petit peu, et le nombre d'émigrants diminue. Mais à partir de 1846, c'est l'hystérie complète qui frappe les Irlandais, puisqu'ils sont 106 000 à quitter le pays, puis 215 000 en 1847 et 225 000 en 1851. Donc si on ramène le chiffre face à la population totale, ça fait quand même un bon pourcentage de la population. Donc la population irlandaise chute pour passer de 8 175 124,5 habitants à 6 500 000, en gros. Je ne vous donne pas le détail, mais entre 1841 et 1851. D'ailleurs, la baisse de la population irlandaise continue même jusqu'en 1926 et peut s'expliquer aussi par des mariages qui deviennent plus tardifs, puisque avant la famine, en fait, à la mort du père, les fils se partagent les terres. Mais après la famine, c'est le fils aîné qui hérite des terrains qui sont du coup beaucoup plus vastes et qui demandent beaucoup plus de temps et de travail, ce qui fait qu'il y a un impact sur les mariages qui sont repoussés et aussi un impact sur la natalité qui baisse, forcément. Pourtant, la société irlandaise, après la famine, évolue considérablement, car le nombre d'habitants étant moindre, forcément, il est plus aisé de réformer la société. L'impact de cette famine sur l'Angleterre fait accroître la population anglaise, à contrario, entre 41 et 51. Et certes, l'augmentation était déjà présente avant la grande famine, mais elle devient plus importante, car elle est nourrie par le flot d'émigrés aussi bien féminins que masculins venant de l'Irlande. Donc si on regarde un petit peu l'impact de cette famine sur la société irlandaise, qui perd quand même 20% de sa population globale, est quand même très importante. Avant la grande famine, la société irlandaise se développe grâce à la révolution industrielle, bien que ceci soit sans comparaison avec le développement de la société anglaise. En effet, par exemple, toujours avant la grande famine, le commerce et l'industrie irlandaise commencent à se développer au début des années 1800. L'économie est même florissante, on crée la Banque d'Irlande en 1783, les transports et les communications ainsi que les voies ferrées voient leur jour aussi. Et cette société d'avant la famine, en fait, est en plein boom économique, ce qui exacerbe des tensions déjà existantes et précipite les transformations de la société irlandaise. Mais elle révèle aussi de nouvelles classes sociales jusque-là pauvres et sans aucun pouvoir, comme les fermiers catholiques, qui gagnent, après, beaucoup plus d'argent et deviennent influents grâce aux lois de 1849. Certains possèdent leurs propres terres et ce nouveau type de propriétaires connaissent la valeur de l'argent et préfèrent développer l'élevage du bétail plutôt que de la culture. L'effet de la famine sur les classes moyennes est plus porteur de changement encore dans la société. Pourquoi ? Parce que certaines personnes qui ne sont pas touchées, comme par exemple les marchands ou les commerçants, les financiers, les négociants, etc., s'enrichissent pendant cette famine. D'un autre côté, beaucoup de pauvres qui n'avaient pas beaucoup de biens sont morts, parce que c'était les premiers touchés par la famine. Donc l'impact sur l'économie de la mort de ces pauvres, en fait, est moindre. La société prend donc un nouveau visage, l'agriculture est plus florissante, elle est partagée entre moins d'agriculteurs, qui sont du coup plus riches, les terrains sont plus grands, et plus d'espace est réservé à l'élevage du bétail. Donc on voit l'évolution de l'agriculture. Du côté politique, les classes moyennes gagnent en pouvoir et représentent aussi une force culturelle et politique qui se bat pour les causes des catholiques, qui va aussi donner la puissance des mouvements catholiques du début la fin du 19e pardon, et du début du 20e siècle. Donc la société irlandaise catholique gagne en légitimité et attaque l'aristocratie protestante qui, elle, perd de son influence, à contrario, et de son pouvoir en continuant de défendre les intérêts de la couronne britannique en Irlande. De plus, comme beaucoup de pauvres, souvent instigateurs du crime, de vol et de violence, sont morts, la société irlandaise devient une société plus respectable. En effet, les classes moyennes sont plus disciplinées et les principes de la société victorienne de l'époque reprennent de l'ampleur dans la société irlandaise de l'après-famine. Ainsi, toute activité de rue, rassemblement, commérage, jeux mendicité et boissons est interdite et les festivals populaires ainsi que les scènes d'amusement sont supprimées. Là encore, on peut établir un parallèle avec le développement de l'éducation et le fonctionnement des écoles et des prisons qui sont très strictes pour répondre à l'évolution et à la demande de la société. Cependant, la grande famine anéantit la théorie du malthusianisme, en Irlande tout du moins. En effet, Malthus justifie la non-intervention du gouvernement lors de la famine car il la juge nécessaire et naturelle afin d'ajuster le nombre de personnes ou la population. L'évolution de la société irlandaise de l'après-famine aurait été complètement différente s'il n'y avait pas eu autant de morts. Mais les classes moyennes irlandaises n'acceptent pas l'idée de laisser des milliers de gens mourir à cause d'une politique de laisser-faire qui est bien entendu symbole de l'Angleterre. Ainsi, les classes moyennes se sentent-elles investies d'une mission après la famine et ont besoin finalement d'actions pour soulager leur conscience. En fait, elles se sentent plus ou moins responsables des problèmes sociaux de leur nouvelle société et vont donc créer des associations pour aider les plus démunis. Donc certains comités, par exemple, vont visiter des hôpitaux, font des propositions pour améliorer le système de santé, etc., etc. Les sociétés vont aider les femmes à trouver du travail. Donc en fait, les classes moyennes vont s'investir dans cette société irlandaise. Donc finalement, agir pour aider les gens pauvres et son prochain va de pair avec le développement et la reconnaissance du catholicisme en Irlande. Mais ceci donne aussi un caractère tout particulier à cette société irlandaise de l'après-famine qui désire s'intégrer dans l'accompagnement aussi de ses prisonniers qui, une fois sortis de prison. Donc on va les aider à trouver du travail, on va les aider à se réinsérer dans la société pour faire en sorte que ils reprennent une vie normale, ce qui n'est pas le cas de la Grande-Bretagne. Alors, je voudrais maintenant juste parler de la famine et notamment le conflit quelque part, la liaison sous haute tension entre l'Angleterre et l'Irlande. Les Irlandais ont tendance à dire que la famine est la preuve ultime du crime britannique. Cette citation qui est issue de nationalistes irlandais résume bien le conflit qui résulte de la politique de non-intervention de l'Angleterre face à la famine en Irlande. En fait, en 1845, le gouvernement britannique minimalise le danger de la première brunissure de la pomme de terre et pense qu'il n'est pas nécessaire de préparer une planification d'aide aux pauvres irlandais. En fait, en 1845, le gouvernement britannique, d'août 1845 à l'été 1846, Robert Peel essaye en fait d'aider les Irlandais. Il leur envoie de l'argent, il essaye de développer les travaux de construction de nouvelles routes pour fournir un peu des emplois, mais ceci ne dure qu'un temps et ne suffit pas à juguler l'impact de la grande famine. De plus, les Anglais refusent de stopper l'exportation de nourriture en provenance d'Irlande et augmentent même leurs importations de blé alors que la population en Irlande n'a rien à manger. Donc en fait, les Irlandais n'ont rien à manger mais ils sont obligés d'exporter le peu de nourriture qu'ils ont vers la Grande-Bretagne et vers Londres principalement. C'est pour ça aussi qu'on les a traités un peu de criminels. Donc forcément, les Anglais sont accusés d'affamer encore plus la population irlandaise, car l'embargo sur les produits anglais semble injuste pour la population irlandaise, bien que celle-ci ne puisse pas finalement acheter de produits britanniques car elle est sans le sou. Cette situation soulève le sentiment nationaliste irlandais qui accuse les Anglais d'avoir détourné le regard de la souffrance de son pays. De plus, la politique du maintien des prix bas est abandonnée en 1846 par le gouvernement britannique, qui déclare que la pauvreté irlandaise doit être soutenue par la propriété irlandaise. La propriété irlandaise n'existe plus, donc c'est un peu difficile. Donc ceci est bien entendu impossible, car si le paysan n'a pas une bonne récolte de pommes de terre, il n'a pas d'argent. Il ne peut donc ni manger, ni payer son loyer aux propriétaires terriens, etc., etc. C'est un cercle vicieux. Donc beaucoup de propriétaires, pendant la famine, voient leurs biens hypothéqués et sont très rapidement ruinés. Donc ils sont incapables de soutenir l'agriculture irlandaise. Ils demandent un soutien financier britannique, mais Londres refuse et déclare que les impôts britanniques ne seront en aucun cas utilisés pour les Irlandais, qui sont tellement différents des Anglais, et ceci bien qu'ils soient des entités apparentaires du Royaume-Uni. Donc en fait, Londres dit, bon, on veut bien, vous faites partie du Royaume-Uni, mais pas complètement, quoi. Vous avez payé nos guerres napoléoniennes, parce qu'ils ont quand même payé un 17e des guerres napoléoniennes, mais vous, là, vous mourrez de faim, nous, on garde notre argent, vous n'êtes pas des entités vraiment de notre pays. Donc c'est un peu ambigu dans la façon de répondre, quoi. Donc forcément, la réponse ne peut que susciter de vifs soulèvements, dans la mesure où les Irlandais financent une partie de Londres, quoi. Donc l'aide financière, finalement, n'est peut-être pas la meilleure solution pour résoudre la famine. Pourquoi ? Distribuer de l'argent à des gens pauvres. Est-ce que ça sert vraiment à quelque chose s'il n'y a rien à acheter dans le pays ? C'est difficile. Et en plus, si l'embargo est maintenu, c'est encore moins justifié. Donc ce n'est qu'en janvier 1847 que l'État britannique se décide à distribuer de la nourriture proprement dite, et 3 millions d'Irlandais dépendent de cette aide publique. Ceci suscite chez les Irlandais, chez les Anglais, pardon, un vif mécontentement décrit dans ce... Alors je vous ai mis des petites caricatures en fait. Donc là vous avez une caricature du magazine Punch qui ironise bien entendu sur la situation en Irlande pendant la Grande Famine en représentant d'un côté la pomme de terre en pleine santé et même bien enveloppée on peut dire. Elle est habillée avec une fraise comme les nobles et elle nourrit toute une population d'Irlandais plutôt définie comme des agriculteurs. Derrière elle, on devine la silhouette. Alors là, vous ne voyez pas très, enfin, c'est pas très clair, mais c'est plutôt sur votre partie gauche. On devine des hautes formes qui représentent les nobles et l'aristocratie. Et l'aristocratie, on sait que c'est une population qui a été quand même moins touchée par les ravages de la famine. D'un autre côté, vous avez la tranche de pain qui semble arriver pour sauver la pomme de terre, en fait. Et la tranche de pain, on remarque quand même que elle connaît bien la pomme de terre, car elle lui serre la main, elle s'adresse à lui, en lui disant « old fellow », donc bon, voilà. Et donc on a l'impression qu'elle s'adresse à la noblesse irlandaise, qui du coup est protestante, et qui défend les intérêts de la couronne britannique en Irlande. Mais le reste est complètement passé sous silence. Donc, voilà. Et en plus, elle lui pose une fausse question en lui disant « oh, delighted to see you, looking do well !» Alors qu'on sait pertinemment que les Irlandais sont en pleine crise, comme si, en fait, elle remettait en cause ce que disaient les Irlandais. Les Irlandais disent « on meurt de faim, on a une situation très problématique », comme si les Anglais doutaient, en fait, en disant « les Irlandais, ils exagèrent un petit peu, ils sont pas si... la famine n'est pas si importante que ça, on va peut-être pas les aider tout de suite ». Donc, bon, on peut quand même... Alors, la date du document, c'est vraiment septembre 1847, ce qui permet d'en déduire que ce dessin critique quand même la non-nécessité de l'envoi de la nourriture en Irlande, c'est-à-dire qu'elle a été faite avant que la nourriture soit envoyée. De plus, le coût de cette aide, alors j'ai un autre petit dessin, le coût de cette aide est dénoncé par cet autre dessin du coup, où le paysan anglais qui est dessous croule sous le poids des Irlandais qui est au-dessus avec un grand sac, et là par contre il a été fait après l'envoi de l'argent, et dans ce sac, je ne sais pas, vous pouvez peut-être pas lire, mais il y a marqué 50 000 livres, ce qui correspond à l'aide anglaise apportée en Irlande. Donc ce dessin date pour le coup de février 1849. Donc la famine n'est pas terminée, mais l'aide du gouvernement britannique est considérée comme trop importante du point de vue anglais, bien sûr. La question est juste une question de point de vue, est-ce qu'on donne trop et de l'autre côté on n'a pas assez. Les mesures qui doivent compléter l'aide financière ne sont pas suffisantes et le système des lois pour les pauvres est dépassé car il n'y a pas assez de place pour les personnes pauvres, ni dans les maisons de correction. Ni dans les hôpitaux, et le système d'aide sociale n'est pas assez étendu. Alors, on note quand même que le paysan anglais apparaît assez pauvre, il est courbé aussi, exténué, à force de travailler pour payer, pour qui ? Pour le paysan irlandais, c'est quand même quelque chose. Et qui, lui, est représenté plutôt souriant, il se tient droit, il est mieux habillé, il a son petit chapeau, là, avec son petit trèfle sur le chapeau. Et du coup, l'auteur souligne finalement le fait que les paysans sont aussi pauvres en Angleterre qu'en Irlande, et qu'en utilisant la même catégorie et la même classe sociale, il espère toucher et émouvoir finalement la société irlandaise aussi, en disant « regardez, qui est-ce qui est obligé de payer ? Ben, ils sont dans le même état que vous finalement ». Donc cependant, au XIXe siècle, le paysan irlandais représente bien, assez bien la société irlandaise, alors qu'avec la révolution industrielle, le travailleur pauvre aurait été mieux choisi ici par l'Angleterre, puisqu'on est plus dans des villes industrielles. Donc on voit vraiment que le fait de choisir le paysan, c'est vraiment pour parler aux Irlandais, en fait. Voilà, je vais peut-être conclure en vous disant que le but de cette première séance a été de poser, en fait, comme vous avez pu le constater, les bases des relations entre les deux pays, en accent plutôt sur l'Angleterre, mais voilà, parce qu'il n'y avait pas énormément de choses sur l'Irlande. Les relations entre les deux pays et surtout les difficultés, notamment liées au traitement des catholiques en Irlande par les protestants. Face à une Angleterre qui devient de plus en plus puissante au fil des siècles, on s'en est rendu compte, la petite île verte voisine pose de sérieuses menaces en se laissant influencer par les puissances comme la France, l'Espagne, qui représentent les deux grands pays catholiques européens. Le problème irlandais n'est pas simple à gérer pour Londres, qui contrôle assez mal la situation et qui se base sur des préjugés, parce qu'on disait qu'il utilisait beaucoup d'espions, mais on verra la semaine prochaine que finalement les espions anglais vont avoir du mal à espionner l'Irlande, vont avoir du mal à rapporter des informations vérifiées et vérifiables, et du coup vont placer Londres dans une situation difficile à gérer. Finalement, Londres, elle est partagée entre ses idées, notamment pendant la Grande Famine, ses idées libéralistes et aussi sa politique de laisser-faire. Elle n'intervient, mais que trop tard, dans le problème de la Grande Famine. Et donc ça, c'est vraiment une mauvaise décision politique qui attise le feu de rébellion déjà bien ancré au sein de la population irlandaise, notamment par rapport à la situation des catholiques. Or, les mauvais traitements et le racisme qui ont cours en Irlande posent les jalons de la tradition révolutionnaire qui atteint son paroxysme à la fin du 19e et au début du 20e, et qui sera le thème de la semaine prochaine. Voilà. Merci.